C'est une femme qui dit à son mari, partage à son mari, elle dit, je ne veux pas me vanter là, mais elle dit, on est rendu en avril, et puis j'ai réussi à garder toutes les résolutions que j'ai prises au jour de l'an. Son mari, wow, hein? Et tout impressionné, vraiment impressionné. Et puis, il dit, comment t'as fait ça? Ben, elle dit, je les ai toutes gardées dans mon classeur. Elles sont toutes bien gardées dans mon classeur. Je n'ai pas perdu aucune. Hein? Je les connais toutes par cœur. Elles sont toutes bien classées. Je les ai toutes gardées. J'ai gardé mes résolutions du jour de l'an. Ça vous arrive-tu de prendre des résolutions, de dire, je vais faire ci, je vais faire ça, puis ça tombe à l'eau? Hein? Ça demeure des... Alors, on aimerait bien ça, ou j'aimerais bien ça, ou peut-être vous aimeriez bien ça, perdre du poids. Levez pas la main, mais qui sait qui aimerait pas ça, perdre du poids, puis d'être en meilleure santé, mais de suivre un régime, puis de changer mon alimentation, ça, c'est moins le fun, n'est-ce pas? Hein? On a moins le désir de faire ça. Qui c'est qui aimerait être en forme? On peut lever la main. Hein? Mais faire de l'exercice, hein? Se mettre à l'entraînement, ça, c'est plus facile, c'est plus difficile. J'aimerais ça être plus spirituel. Avoir un bon temps avec le Seigneur où hein, je me nourris de la parole, puis... Mais c'est dur de faire de la place dans mon agenda pour avoir ce temps-là, tous les jours, là, hein? C'est difficile. J'aimerais ça m'engager, être actif dans l'Église, être dévoué, faire partie d'un groupe maison, hein, on en parle depuis une couple de semaines. J'aimerais bien ça faire partie de ça. Mais il ne faudrait pas que ça dérange trop mon agenda. J'ai un agenda tellement chargé. Le travail, la famille, les responsabilités, de faire de la place pour ça, c'est trop difficile. Alors, il y a bien, on a ces bonnes intentions-là, mais ce n'est pas toujours facile de passer aux actes, de mettre ça en pratique. Alors, j'aimerais bien que ça arrive, mais ça n'arrive pas par magie. Ça n'arrive pas par magie. On récolte ce que on sème. Alors, si je veux récolter la bonne santé, si je veux récolter la bonne forme physique, le bon temps avec le Seigneur, le bon temps avec les frères et sœurs dans le petit groupe, et même le dimanche, je dois semer quelque chose. Et c'est ça qui va produire le bon fruit. J'ai une mauvaise nouvelle, puis j'ai une bonne nouvelle. On commence par la mauvaise? Hein? La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu ne fera pas ça à ma place. Dieu ne fera pas l'entraînement à ma place, puis Dieu ne gérera pas ces choses-là à ma place. Parce que Dieu ne veut pas d'un robot, il ne veut pas de... Hein, il pèse sur le piton, puis le chrétien, il fait ce qu'il a à faire. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Il veut mon cœur. Hein? Il veut mon cœur. C'est quoi le plus grand commandement? La chose la plus extraordinaire qu'un être humain peut faire sur cette terre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est ça que Dieu veut. Hein? Il veut mon cœur. Il veut que mon cœur soit là. Pas juste que j'exécute des choses, pour exécuter des choses, faire plaisir au pasteur. Non. Ce que Dieu veut, c'est mon cœur. Il veut que mon cœur soit là-dedans. Et je ne sais pas pour vous autres, mais c'est très difficile de changer nos vieilles habitudes. Puis on dirait, en vieillissant, pire c'est. Hein? Non, Lise? Non. Lise est très disciplinée, elle. Elle est jeune. Ouais. On dirait que c'est comme quand on est comme pris dans un moule, puis il y a de l'argile, puis l'argile a durci, puis se sortir de ce moule-là qu'on a fait pour essayer de vivre dans la société dans laquelle on est, très difficile de sortir de là. C'est comme quasiment sortir de prison. On est emprisonné par notre système et puis on n'a pas la liberté de faire ce qu'on aimerait faire, ce qu'on devrait faire, même si le cœur est là. Alors, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle? Bon, j'espère que j'ai le bon piton. Ça. Oui, ça marche. Hein? C'est quoi la bonne nouvelle? Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement. Ça ressemble qu'on t'a dit ce que je viens de dire, mais non. Je devrais faire un autre message pour ça, mais ce qu'il veut dire, c'est si tu as désobéi sans crainte et tremblement, tu n'es pas dans la bonne affaire. Désobéir sans avoir la crainte du Seigneur, sans trembler, ce n'est pas la bonne affaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est « mettez en action ». Et il y a un mot là, dans le grec qui est « énergie hein? ». L'énergie. Énergisez votre salut. Mettez en action, c'est le meilleur qu'on a pu traduire, mettez en action, énergisez votre salut. Non seulement comme si j'étais présent, c'est Paul qui parle, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère. Qui énergise, encore le même mot, en vous, qui met en action, qui énergise le vouloir et le faire, encore le même mot, la mise en action, l'énergie, selon son dessein bienveillant. Alors, c'est Dieu qui nous énergise. Pas une bonne nouvelle? Dieu nous énergise. On est ici ce matin, là, parce qu'en quelque part, Dieu nous a énergisés. On a mis en action notre salut. Alors, ce que Paul est en train de dire ici, il dit non seulement comme si j'étais présent, mais bien encore maintenant que je suis absent, il est en train de dire, je ne suis pas votre énergiseur. Quand je suis là, ça fonctionne, ça marche, je pars, je m'absente, tout tombe à l'eau. Paul est en train de dire, oups, on n'est pas branché au bon endroit. Hein? Oui, un pasteur qui est stimulant, qui est encourageant, on a besoin de ça, c'est pas mauvais. Hein? Un prédicateur en avant qui sort le fouet, puis... Non. C'est la houlette, le petit houle. Juste la houlette. Oui, on a besoin de ça. Mais on ne dépend pas de ça. Ce n'est pas ça qui doit être la source de notre énergie. Quelle est la source de notre énergie? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Hein? On a besoin de ce cadre-là extérieur, faire partie d'une église qui est enflammée pour le Seigneur, puis on embarque là-dedans. Mais s'il n'y a que ça, on tombe dans la religion. Hein? On fait des choses parce que tout le monde fait les choses, puis le cœur n'est pas là. Malheureusement. Alors, ce que Paul est en train de dire, là, est en train de dire, branchez-vous à la source d'énergie. Hein? Connectez-vous à la bonne source d'énergie, puis vous allez voir l'effet, vous allez voir le fruit que ça produit. C'est garanti. Une ampoule électrique, là, toute seule, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pas grand-chose. Branchez-la, hein? Que le courant passe, et vous allez voir, l'ampoule électrique, elle va briller. Si je dis, je vais attendre que Dieu me le mette à cœur. Tu vas t'attendre longtemps? C'est ça que Dieu veut, qu'il le fasse à ta place? Non? Il va attendre qu'il fasse son travail. C'est comme je renverse les responsabilités. Là. Je mets la responsabilité sur Dieu. Alors, l'idée, là, c'est que si je n'ai pas d'énergie pour accomplir toutes les résolutions, les bonnes intentions que j'ai, Si je n'ai pas d'énergie, c'est parce que je ne suis pas branché à la source. Hein? Dieu veut faire ces choses-là. Et ce n'est pas lui qui fait défaut, c'est moi qui fais défaut. Hein? C'est lui qui va produire en moi, qui va énergiser en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon son plan, selon son dessein bienveillant. C'est ça le but de Dieu, là, hein? C'est que nous soyons énergisés, réveillés, hein? Et qu'on ait cette puissance-là, cette force-là, pour accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Alors, comment se brancher? C'est ma question ce matin. Comment est-ce qu'on se branche pour que le courant passe, là? Il y a un homme d'affaires qui avait réussi. Il avait une carrière internationale. Il se promenait partout dans le monde. Il a voyagé partout dans le monde. Et puis, à un moment donné, il réalise qu'il néglige sa mère qui est veuve. Il ne s'est pas occupé d'elle assez. Et dans ses voyages, il dit, je vais lui envoyer quelque chose, je vais lui envoyer un cadeau là, spécial, quelque chose de big. Puis il se met à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais bien lui envoyer? Et il trouve un perroquet savant, 1 200 $ américains. Un super perroquet, là, fortune. Il dit, avec ça, ça devrait la désennuyer. Ça devrait me faire pardonner. Hein? Une façon de me faire pardonner. Alors, le temps passe. Il attend. J'ai hâte d'avoir sa réaction, tu sais, quand elle va recevoir ce beau cadeau-là. Finalement, il appelle, puis il lui demande, « Est-ce que tu as reçu mon cadeau? » Et elle répond, elle dit, je l'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé ton cadeau. Elle dit, tu l'aimes plus? Elle dit, il était délicieux. Elle dit, le lendemain, je l'ai fait cuire avec ma sauce préférée. Il dit, maman, ce perroquet-là, là, il valait 1 200 $. Il était dressé, il était entraîné, il parlait 5 langues, il chantait, il dansait. Elle dit, oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et quelle est la morale de cette histoire? Ça se peut-tu qu'on dise ça, nous aussi? Avec le cadeau que Dieu nous a fait? Hein? Il dit, je veux que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Ça se peut-tu qu'un jour, on va dire, si j'avais su, si j'avais su. On ne veut pas dire ça, hein? Non, pas si j'avais su. On le sait. Hein? Une vérité toute simple. Quel est le verset le plus connu dans le monde? Moi, je dirais les chrétiens. Mais là, on ouvre plus large. Depuis 3000 ans, là. Le psaume 23? C'est ça. L'Éternel est... Combien le savent par cœur pour le réciter? Oh, plus que ça, hein? Oui. Hein? C'est le verset le plus connu sur terre depuis 3000 ans. Alors, l'Éternel est mon berger. Oui, hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand David a dit ça, là, l'Éternel est mon berger. À l'époque, l'Éternel, là, c'était quelque chose. Là. L'Éternel, c'était Yahvé. Là. Puis Yahvé, c'était le Dieu qui s'est révélé d'une façon à Moïse, un Dieu majestueux, un Dieu glorieux, un Dieu tout-puissant, qui délivre avec des miracles, des prodiges, des signes, les 10 plaies d'Égypte. Il anéantit Pharaon dans la mer. Il ouvre la mer et puis il n'y avait pas de déchets dans ce temps-là, ils ont pu passer. Il se révèle sur le Sinaï, la montagne qui est en feu, avec les éclairs, le tonnerre de Dieu trois fois saint. C'est l'Éternel de Dieu trois fois saint que tu ne peux pas approcher parce que tu vas mourir. Si tu approches trop de Dieu, tu vas mourir. Tu approches trop de la montagne, tu vas mourir. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger. L'Éternel, là, le Dieu transcendant, le Dieu trois fois saint, il est mon berger. Est-ce qu'il connaissait ça, lui, les bergers? Il en était un. Il était un berger. Il savait l'amour qu'il avait pour les petites brebis. Hein? Il connaissait l'amour qu'il avait pour les brebis, le soin qu'il prenait pour les brebis. Il était vraiment... Quand il dit « L'Éternel est mon berger », il savait ce qu'il disait, là. Il savait de quoi il parlait. Mais ça, c'est une révélation, là. C'est une toute autre image de Dieu que l'Éternel sur le mont Sinaï. Alors, il se révèle à David comme son berger. Qu'est-ce qui va donner à David cette énergie-là? L'image qu'il a de Dieu. Hein? Quand il s'est présenté devant Goliath, l'image qu'il avait de Dieu et de lui a fait qu'il lui a tranché la tête. Hein? Ça a été la victoire. Alors, si c'est bien vrai que l'Éternel est mon berger, c'est quoi la suite? Je ne manque de rien. Hein? Il n'y a pas de futur, là. Si l'Éternel est mon berger, mon frère, ma sœur, je manque de rien. Comment est-ce que quelqu'un qui a un berger, un berger comme Dieu, comme Jésus, peut manquer de quelque chose? Comment est-ce que quelqu'un qui est assis ici ce matin, puis que Dieu, qui a Jésus-Christ comme berger, manque de quelque chose? Si David il dit, « Moi, un simple être humain, j'aime mes brebis comme ça, jusqu'à quel point le Dieu Tout-Puissant y aime sa brebis? » Mon frère, ma sœur, si on savait, là, hein? Pas comme la madame, là, avec son perroquet, mais si on pouvait comprendre l'amour que Dieu a pour nous, on serait énergisé, pas à peu près. Mais on dirait que ça bloque en quelque part. Est-ce que ça se peut qu'on ait l'impression qu'il nous manque beaucoup de choses pour être heureux, pour être en sécurité, en paix? Pas seulement des choses matérielles, là, mais émotionnel aussi, relationnel, des choses spirituelles. Ça se peut-tu que je manque de beaucoup de choses? Ça serait plus, ça décrirait plus mon état que je ne manque de rien. Mon Dieu, avec un petit dé, est impuissant. Oh, ça n'a pas marché. OK. Mon Dieu est impuissant, indifférent, absent. Je prie, il n'y a pas de réponse au numéro que vous avez composé. Silence. Est-ce que j'ai la bonne image de Dieu? Si j'ai cette impression-là, je n'ai pas la bonne image de Dieu. Hein? Et je dois affirmer ce matin que Jésus est mon berger. Puis l'autre côté de la médaille, si Jésus est mon berger, qui suis-je? Qui suis-je? Qui es-tu? La brebis bien-aimée du Seigneur. Tu es la brebis bien-aimée du Seigneur. C'est quelque chose, là. C'est pas rien, là. Pas juste de dire « L'Éternel est mon berger », mais de le comprendre, l'expérimenter, le vivre, c'est une autre chose. À partir d'aujourd'hui, je savais que l'Éternel était mon berger. Ça fait une couple de semaines, ça me trotte dans la tête. Mais le vivre, comme si Jésus était à côté de moi, puis qu'il était mon berger, puis qu'il prend soin de moi, ça, c'est une autre chose. Alors, si quelqu'un arrive ici, ou si je vous dis, le feu est pris au sous-sol. Pas fort comme réaction? Pourquoi? Pas vrai? Puis vous ne me croyez pas. Si quelqu'un arrive ici en courant, il rouvre les rideaux, vient du sol et dit « Le feu est pris au sous-sol », ça va bouger. Hein? Si les parents vont aller chercher leurs enfants, puis hey boy, on va te vider la place dans le temps de le dire. C'est quoi la différence? Je crois la vérité. Je crois à la vérité. Alors, le jour où je vais croire la vérité que Jésus est mon berger, ça énergise. Hein? Ça va provoquer en moi le vouloir et le faire. Alors, il y a un obstacle majeur qui m'empêche de me brancher sur la vérité. Je ne le mérite pas. Je ne suis pas une bonne brebis. Ça, c'est un obstacle majeur. Cette semaine, Lise et moi, on a rencontré une dame. Pendant 2 heures, elle nous a raconté ce qu'elle a vécu dans sa vie. Elle était toute petite. Son père alcoolique, il battait ses sœurs, sa mère, jusqu'au sang. Il a essayé d'abuser d'elle. Elle a réussi à le repousser. Elle s'est faite violer par un voisin. Elle tombe enceinte. Elle a gardé l'enfant. 17 ans. Elle s'en est occupée. Puis elle était victime de ségrégation raciale. On a passé du temps dans le soin de sa colère, puis de sa peine, de la douleur qu'elle avait emmagasinée pendant toutes ces années-là. Il y en avait épais. Et oui, elle a pardonné du fond du cœur ces personnes-là, ces agresseurs-là. Et oui, elle était délié, débranché de cette peine-là. Mais savez-vous ce qui la tenait liée, qui l'a tuée pendant toutes ces années-là? Ça a sorti comme à la fin de la prière. Je suis maudite. T'es chrétienne, là, pendant des années. Il y avait un mensonge dans le fond de son cœur. Si ça m'est tout arrivé, là, je l'ai bien mérité. Je suis maudite. Hey boy! Hey boy! Amener ce mensonge-là à la lumière. Wow! Wow! C'est la vérité, ça? Ça vient d'où, ça? Je suis maudite? Non, tu es la fille bien-aimée de Dieu. T'es la brebis, la petite brebis dans les mains de Dieu. Alors, l'image que s'est faite de Dieu, l'image que s'est faite d'elle-même, était chrétienne. Elle savait tout ça dans sa tête. Là. Que Dieu est bon, que Dieu l'aime, que Dieu... Mais en théorie, en pratique, dans le fond de son cœur. C'est pas ça qu'elle vivait, là. Elle était prisonnière, elle était vraiment enchaînée dans ce mensonge-là. Qu'elle avait été maudite et qu'elle subissait ce qu'elle méritait. Hein? Si ça lui est arrivé, c'est parce qu'elle le méritait. Et wow, quand tu brises ça, là, quand tu brises le mensonge, puis tu es face à la vérité maintenant, la vérité que je suis la fille bien-aimée de Dieu, ça, je vous dis que ça énergise une vie. Ça, ça change une vie. Hein? Alors, tout ça pour dire que un gros mensonge qui m'empêche d'être énergisé parce qu'il y a un blocage sur soit ce que je pense de Dieu ou bien ce que Dieu pense de moi qui est faux. Hein? Je ne le mérite pas. Je ne suis pas une bonne brebis. Je ne suis pas assez bon, assez bonne. J'ai tellement encore de manquements, de déficiences, de fautes. Je commets tellement d'erreurs. J'offense tellement. J'ai tellement de luttes, j'ai tellement de défaites. Et je crois que Dieu va m'aimer si je performe un peu mieux. Ou quand je vais performer un peu mieux, Dieu va m'aimer. Hein? Et qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Mensonge. Un gros mensonge. Hein? Dieu ne va pas t'aimer parce que tu performes plus. Tu es encore une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure chrétienne, meilleure ci, meilleure ça. Non, non, tu marches à l'envers. Hein? Ce n'est pas je vais gagner la faveur de Dieu, je vais gagner la grâce. Non. Non. Tu es aimé de Dieu. Comme tu es, tel que tu es là. Hein? Tu es aimé comme ça. Dieu t'aime vraiment. Alors, il y a un grand obstacle. On pourrait... le dire comme ça, j'espère bien que l'Éternel sera mon berger. Si je réussis à être une bonne brebis et que je continue à bien faire pour mériter sa faveur, il va prendre soin de moi. Sinon, ben, tu te décourages. Puis tu laisses tomber, puis à un moment donné, tu n'as plus rien à perdre, puis tu lâches tout. Hein? Est-ce que ça ressemble à ça? C'est ton Dieu, ça? Non. On ne sait pas quoi faire avec le cadeau que Dieu nous a envoyé, son Fils. Hein? Je ne sais pas quoi faire avec ce cadeau-là. Je n'ai pas de brebis chez moi. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des brebis chez eux? Aucun? Oui? Hey! Toi, tu sais c'est quoi une brebis? Hein? Très agaçant? Hein? Quand il crie? Hein? Mais pour les autres, là, une brebis, ça ne me dit rien, moi. Hein? Ça ne fait pas partie de mes références. Ça ne fait pas partie de mon quotidien. Mais, s'il y en a qui ont des chats. Vous avez eu des chats. Ouais. Nous, on a un chat qui s'appelait Tommy. C'est un tigré comme ça. Hein? Et Tommy, lui, il avait libre accès partout dans la maison. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il avait la bouffe. Il avait son eau, sa litière, son abri, ses jouets. Il avait de l'attention. À 5 heures du matin, surtout que le soleil se levait, il montait sur la commode dans notre chambre à coucher, jetait les affaires à terre parce qu'il voulait avoir de l'attention. Hein? L'affection avec Lise, Moi, j'étais allergique, fait que, un petit peu moins. Mais quand même, les autres chats dans le voisinage, là, il n'y avait pas ça. Hein? Il l'a peut-être ailleurs, mais il ne rentrait pas chez nous. On a des écureuils chez nous, on a des lièvres. On a eu des lièvres toute la semaine. Un raton laveur qui s'est présenté dans notre fenêtre. Une moufette avec ses petits. T'espères qu'elle ne fasse pas son nid dans sa cour. Mais un renard, je veux un renard passer dans notre cour. Mais ces animaux-là, là, ils ne rentrent pas chez nous. Hein? Pourquoi? Parce que Tommy, il est plus fin, il est plus... Pourquoi que lui, il a accès chez nous, puis pas les autres? Parce que c'est mon chat. C'est mon chat. Hein? Et Jésus dit la même chose. T'es ma brebis. Hein? Rentre. Demeure en moi. Hein? Demeure en moi. Rentre. Puis tu vas voir que tu vas avoir tout le soin que tu as besoin. Demeure en moi. Jésus te dit, t'es ma brebis ce matin. Tu le crois-tu? Ça t'énergise-tu? Oui. Hein? T'es toute sale? Qu'est-ce que Dieu te dit? Espèce de pas bon, espèce de pas bonne. Hein? C'est ça qu'il dit? Non, il dit, viens, je vais te laver, je vais te purifier. Hein? Confesse ton péché, tu vas recevoir le pardon de Dieu. Tu vas être purifié. Hein? Etc., etc. Brebis, c'est un animal spécial, vraiment spécial. Qui n'aimerait pas avoir une brebis, là? Hein? Une brebis, ça n'a pas de flair. Hein? Ça se perd, là. Ça va courir après des cochonneries, là, ou des choses dans la nature, puis à un moment donné, il va se retrouver tout seul. Incapable de retrouver son chemin. Incapable de trouver de la nourriture. Une brebis sauvage, ça n'existe pas. Une brebis sauvage, une chèvre sauvage, un animal sauvage, ça existe. Une brebis sauvage, ça n'existe pas. Toute seule dans la nature, elle va mourir. Et ça, c'est la tactique du diable. Qu'est-ce qu'il veut faire avec les brebis? Les isoler. Loin du troupeau. Hein? Ça, c'est son truc. Il a commencé avec Adam et Ève, il a séparé Ève de par rapport. Hein? Puis il fait ça. Il veut nous séparer de l'Église, il veut nous séparer du troupeau du Seigneur. Puis là, il peut commencer à faire son œuvre en nous, tranquillement, pas vite. Mais la brebis, sa faiblesse, c'est sa force. Sa faiblesse, c'est sa force. C'est quoi sa force? C'est quoi la force, l'instinct de la brebis? Pardon? Elle dépend du berger. Obéir. Suivre, se coller sur son berger. C'est ça la force, avec crainte et tremblement. Là, je le ramène, là, mais dans le bon sens. Parce que si je n'ai pas le berger à côté de moi, j'ai peur des conséquences. Hein? Une brebis, c'est docile de nature. Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Elle comprend vite. Hein? Le berger, il y a un bâton, puis il y a une houlette. Le bâton, c'est supposé être pour les loups, pour les prédateurs. Ils assomment, puis hein, David avait un bâton, puis il faisait face aux prédateurs. La houlette, le petit houle, c'est un petit coup. Petit coup sur la fesse, là, puis oups, la brebis, elle retourne dans son troupeau. Alors, c'est quoi la force de la brebis? C'est cet instinct-là, l'instinct que la brebis a. Hein? Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Les brebis du Seigneur, ils ont cette faculté-là, ils ont cet instinct-là d'entendre la voix du berger. Ça se peut-tu qu'on soit occupé à d'autres choses? Je ne me souviens pas ce qu'il y a d'écrit, mais comment ça se fait que je n'entends pas la voix du berger? Tellement occupé à toutes sortes d'affaires qu'on ne prend pas le temps d'écouter la voix du berger. Comment est-ce que Dieu nous parle? Il le fait ce matin, il faut se déplacer, il faut venir le dimanche, à travers quelqu'un, mais durant la semaine. Hein? Le Seigneur veut nous parler. On peut avoir un brunch tout fait, là, tout préparé. Jean-Claude, il prépare ça. Là. Un brunch pour une méditation sur la parole. On lit la parole, c'est comme ça que Dieu nous parle. Hein? Les gens vont dire, vont venir nous voir, puis ils vont dire, « Hey, Dieu, t'a vraiment mis ça à cœur de parler de ça, parce que j'en avais besoin. » On a besoin, Lise a partagé hier comment elle était découragée, puis comment dans son culte, ça ressortait de partout, là, dans ses lectures, comment Dieu répondait à son besoin. Alors, Dieu, il veut parler. Dieu, il veut nous énergiser. Mes frères, mes sœurs, pluguons-nous. Hein, pluguer pour des Québécois, ça veut dire branchons-nous. Branchons-nous sur la source. T'es en train de crever, t'es en train de mourir. Hein? Branchons-nous sur la source. Puis on va l'avoir, cette vie en abondance. Est-ce que c'est juste une bonne intention qu'on a ce matin, puis non, branchons-nous. Hein? Demande-le au Seigneur. Demande-le. Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse cette semaine? Petite chose. On commence par une petite chose. Puis si on est fidèle dans les petites choses, il va nous en confier des plus grandes. Hein? Alors, je vous laisse avec... J'ai du matériel que je vais vous donner, mais avant, peut-être l'anti-psaume. Oups. Je suis... sans berger, c'est une brebis perdue. Je suis sans berger, je manque de tout, je suis dans le besoin. Personne ne me fait reposer dans de verts pâturages. Je n'ai aucun repos, rien pour me redonner des forces. Nul ne me dirige près des eaux paisibles. Tout est tumultué autour de moi. Je suis assoiffé et rien ne restaure mon âme troublée. Je ne trouve personne de fiable qui puisse me conduire dans les sentiers de la justice. Je ne sais pas vers qui me tourner. Nul ne s'occupe de moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le malin me guette et me menace. Je suis effrayé, inquiète. Je tremble au-dedans de moi, car nul ne vient à mon aide. Rien ne me rassure. Aucune personne n'a préparé une table pour moi. Je suis environné d'adversaires qui rêvent de faire un festin de moi. Personne n'a oint d'huile ma tête et ma coupe est vide. Oui, tous les jours de ma vie sont chargés de malheur. Et je vais de déception en déception. Je n'ai pas l'espérance de voir des jours meilleurs, ni aucune demeure éternelle. L'antipsaume. Est-ce que ça ressemble à tes prières? Est-ce que ça ressemble? Sois vrai, là. Hein? Ça ne sert à rien de jouer aux chrétiens, là. Sois vrai. Ça ressemble-tu à ça? Ma vie, hein? Paquet de malheurs, paquet de souffrances, de douleurs, de peines. Et un bon exercice. Je vous ai, j'en ai fait des copies. Alors, vous pourrez le faire cette semaine. C'est le psaume le psaume 23 avec un qualificatif de ce qu'est le bon berger. On a vu une ce matin. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est vrai? Tu y crois? Tu vas sortir d'ici et tu manques de rien? Même si les apparences sont contraires? Non, je manque de rien. Et à chacune de ces descriptions-là, il y a un attribut de Dieu, il y a une vérité qu'on peut en prendre une par jour puis la méditer. Hein? Si on prend ce... Je vais vous donner les feuilles tantôt. Si on prend chacune de ces paroles-là, puis on y applique une description de Dieu ou de la réalité que je vis, puis que je médite ça, je pars avec ça, je pense qu'on va être énergisé. Hein? Alors, l'Éternel est mon berger, vous répondez? C'est une relation. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et pas la malédiction. On n'est pas maudit, on est béni. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la sécurité. Alors, on va terminer. Je vais faire une prière. Elle est sur la feuille, mais juste allons ensemble devant le bon berger avec cette prière. Seigneur, tu es le bon berger. Est-ce que vous voyez le bon berger? Regardez-le dans les yeux. Et vous êtes sa brebis, sa petite brebis bien-aimée. Seigneur, aujourd'hui, je renouvelle ma foi. J'affirme que Jésus est mon berger. Ma sécurité, la satisfaction de tous mes besoins, mon bonheur ne sont pas entre mes mains, ni dans les mains de personne d'autre. Je choisis de tout mon cœur d'écouter la voix de Jésus, mon berger, et de le suivre en lui faisant entièrement confiance dans tout ce qui m'arrive. C'est Jésus, mon berger, qui produit, qui énergise en moi le vouloir et le faire avec toute sa bienveillance. Je goûte à la vie en abondance qu'il m'a promise maintenant et pour l'éternité. Je ne manque de rien, c'est vrai, je le vis. Amen.